chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Bienvenue dans les chroniques terriennes de l'été consacrées aux femmes, avec une question lancinante: où est l'origine de la discrimination envers les femmes? Dans les émissions précédentes, et grâce à Françoise Héritier, nous avons pris quelques exemples de l'inégalité de traitement des hommes et des femmes dans toutes les sociétés. Enfin, je ne suis pas allée interroger les Bushmen qui passent pour être tous heureux. Mais dans tout ça, comment inverser les tendances? Alors, je me suis interrogée sur une éventuelle différence biologique qui expliquerait les différences de performance attribuées aux hommes et aux femmes. Et en particulier au niveau du cerveau. Grâce aux récentes techniques d'imagerie médicale, c'est fou ce qu'on a appris sur le fonctionnement du cerveau. Ça a stimulé plein de recherches, aussi bien physiologiques que psychologico-sociales, avec enquêtes, statistiques, etc. Voilà ce qui en ressort. Et tout ça, je l'ai pioché dans divers ouvrages et articles sur lesquels je suis tombée parfois par hasard, parfois en cherchant sur Google, ou que j'avais dans mes tiroirs depuis un certain temps. Mais à vrai dire, une chercheuse domine dans ce que je vais vous dire. C'est Catherine Vidal, neurobiologiste de l'Institut Pasteur, qui fouille toutes les données scientifiques qui pourraient répondre à la question « Est-on légitime quand on parle de différence entre hommes et femmes ? Et s'il y en a une, sur quoi repose-t-elle ? » Catherine Vidal a participé à des ouvrages comme « Cerveau, hormones et sexe ». Elle multiplie les conférences, dont celle-ci « Mon cerveau a-t-il un sexe ?» que Laure de la Salle a transformé en un documentaire. Tout ça en espérant faire changer les points de vue sur les femmes. Allez, un peu de musique avant de se lancer dans des explications plus ou moins ardues.
Si je n'avais pas ouvert les yeux, grâce à toi mon père, aurais-je quand même un jour vécu? Si je n'avais pas pris l'air près de ton souffle, ma tendre mère, mon âme serait-elle devenue? Que faut-il croire dans ces histoires que l'on raconte? Que faut-il voir dans ce reflet que l'on affronte? Y en a qui disent qu'il n'y a rien d'autre, chemin, y en a qui disent que l'on revient. Y en a qui disent que c'est divin, d'autres que l'on renaît en chien. Que disent les lignes de la main? Mon cœur sur le mot aimer, je n'aurais pas peur de tout quitter. Si je n'avais pas osé ces choses que l'on ne regrette jamais, vieillir me ferait rigoler. Que faut-il voir dans ce destin que l'on espère? Que faut-il croire pour y chemin? Y en a qui disent que l'on revient. Y en a qui disent
Alors, que nous dit Catherine Vidal? Est-ce que la différence est biologique? Est-ce qu'on peut, avec les techniques d'imagerie cérébrale associées à divers tests, lever le doute ou préciser la différence entre les hommes et les femmes? Ce à quoi on pense en premier, c'est au chromosome XY, ces fameux chromosomes qui déterminent le sexe. Là, on ne peut nier une différence. Le chromosome Y est bien là pour donner un mâle plutôt qu'une femelle. Et on trouve des différences qui concernent les fonctions reproductives. Il y a dans le cerveau féminin des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation, ce qu'on ne retrouve pas dans un cerveau masculin. Mais la différence apparemment s'arrête là. Le développement du cerveau ne dépend pas des chromosomes sexuels. Et d'ailleurs, parenthèse, vous savez que notre corps est imprégné d'hormones, et en particulier d'hormones sexuelles. Traditionnellement, on parle d'estradiol pour la femme et de testostérone pour l'homme. Les deux influencent notre comportement. Notre comportement et nos humeurs. Mais voilà, les deux se retrouvent dans les cerveaux, aussi bien masculins que féminins. Ça vous en bouche un coin? On a même démontré que chez les rats et les cailles, c'est l'estradiol, chez le mâle, qui déclenche le comportement d'accouplement. Où allons-nous? Bon alors, sur quoi repose la différence que la majorité des individus de notre monde attribuent aux deux sexes? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les données à la base. Premièrement, il faut savoir que le cerveau d'un bébé contient un stock d'à peu près 100 millions de neurones. Pour fonctionner, ces neurones doivent se connecter entre eux. Or, à la naissance, il n'y a seulement que 10% de connexions qui sont réalisées. Ce n'est que peu à peu que les connexions se construisent. N'oublions pas que chez les humains, la croissance du cerveau dure 7 ans. Et c'est au cours de ces années que les connexions se multiplient, au gré des influences de la famille, de l'éducation, de la culture, de la société. Et c'est ainsi que chez l'adulte, on arrive à 1 million de milliards de connexions. Deuxièmement, on parle du comportement inné des hommes et des femmes, d'une différence innée, donc attribuée à la nature. Qu'en est-il de cette innéité chez les humains? Vous avez entendu parler de Victor, l'enfant sauvage aveyronnais. Il marchait à quatre pattes quand on l'a retrouvé à 10 ans. Pourquoi, en tant que Homo sapiens, donc bipède, n'est-il pas sur ses jambes? Eh bien là, on aborde un problème qui agite scientifiques, philosophes et intellectuels de tout poil. Sommes-nous nature ou sommes-nous culture? Certains prétendent que l'homme a perdu ses réflexes innés pour tout apprendre au travers de la culture, de la société, bref, de son environnement humain. Moi, je n'irai pas jusque-là. Nous avons une partie du système nerveux appelée hypothalamus, la structure la plus primitive de notre cerveau que nous partageons avec tous les vertébrés. C'est cet hypothalamus qui nous permet d'assurer de façon innée la satisfaction de besoins essentiels comme la faim, la soif, la sexualité. Et ce n'est pas anecdotique. Mais il faut reconnaître que nos comportements ont beaucoup à voir avec notre histoire personnelle. Et c'est ce que confirment les études du cerveau avec les moyens actuels d'investigation.
À chacun son chemin, la liberté se jette. Delta au-delà, où l'océan reflète, on dit que tout est grand, à y perdre la tête, on y goûte un instant et dedans, tout s'émiette. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête, je ne m'en fais pas pour moi,
Mais les brebis m'inquiètent, ici-bas elles se gavent de ferraille, de plastique, d'argot, de betterave et d'amour synthétique. Devant ce grand festin, la liberté regrette. Les brebis ont vomi, l'indigestion les guette. Qu'y a-t-il donc après ? Plus rien. Les brebis sont tentées par les sentiers divins, crapahutées là-haut pendant les transhumances. Dans l'auberge il fait chaud, elles remplissaient leurs panses de sermons asservis, sans une prière et au lit, sans s'inquiéter du temps, sans redouter l'errance, le pasteur rabâchant ses conseils de prudence. Mettez-vous ça dans la tête, les brebis ne sont pas faites pour apprécier le large, pour apprendre à voler, gambader dans les marges, aimer la liberté. Tôt ou tard, tout penaud, on rejoint le troupeau. À chacun son chemin, la liberté se jette au delta, au-delà, où l'océan reflète. Que tout est grand, à y perdre la tête, on y goûte un instant, et dedans tous ces miettes, j'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, ici-bas elles se gavent, du premier fanatique, levant le sourcil grave, ou le doigt prophétique, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, on les a déjà vues, foncer à l'aveuglette, quand elles ont peur de tout. Dans la gueule du loup. La 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 la. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. La 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 la. Elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup.
La bataille fait rage dans les milieux scientifiques entre les tenants de la différence et les tenants de l'égalité. Et quand on sait comment les travaux scientifiques, leurs résultats, sont influencés par les dogmes véhiculés par la culture de ces scientifiques, il y a tout lieu d'être très circonspect. C'est ce qu'a démontré en particulier Stéphane Jégould dans son ouvrage « La malmesure de l'homme ». Il a repris tous les résultats scientifiques depuis plus d'un siècle sur deux points, le QI et le développement du cerveau, qui ont servi de base à la définition de race et aux discriminations que nous vivons encore tous les jours. Il démontre sans ambiguïté que les recherches scientifiques et leurs résultats sont imprégnés par les dogmes et les croyances des sociétés qui les produisent, ce qui biaise la réalité après laquelle courent tous ces scientifiques et penseurs qui fouillent inlassablement notre psyché. De plus, à contrario, si les résultats d'une recherche, comme le dit Henri Laborie dans l'introduction à son livre « La nouvelle grille », ne s'intègrent pas facilement dans les schémas culturels connus, quand elles ne favorisent pas un courant d'opinion existant déjà, une idéologie politique ou socio-économique en vogue, elle ne peut être prise au sérieux. Celui qui l'exprime ne fait pas preuve d'un humanisme de bon aloi. Cet humanisme qui ne dérange rien, qui fait appel aux grands ancêtres, à la culture en place, c'est-à-dire l'ensemble des préjugés et lieux communs d'une société et d'une époque. C'est pourquoi des scientifiques, c'est eux qui aujourd'hui font autorité pour exprimer ce que nous sommes, ont tant de mal, comme Catherine Vidal, à faire basculer le socle de certitude sur la différence entre les sexes. Ainsi, Les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, proche de la taille de celui des noirs et des singes. C'est le célèbre professeur Broca, qui par ailleurs, autant que je me souvienne, a détecté dans le cerveau les aires du langage, qui le déduisait de la mesure de quelques crânes, ce qui confirmait sa croyance, puisqu'il disait « Il ne faut pas perdre de vue que les femmes, en général, sont moins intelligentes que les hommes. » Car, bien sûr, dans son esprit, l'intelligence était liée à la taille du cerveau. Plus il était gros, plus on était intelligent. Cette affirmation, aujourd'hui, a été balayée par un grand nombre de comparaisons faites ultérieurement. L'exemple le plus célèbre étant celui du cerveau de Einstein, dont le poids se situe dans la prétendue moyenne de celui des femmes. Les hommes, dit-on, sont plus doués pour les maths que les femmes. Des tests ont été conduits en soumettant des étudiants garçons et filles à des épreuves de représentation dans l'espace. Si on annonce au départ que c'est un test de géométrie, le score est meilleur chez les garçons que chez les filles. Mais si on annonce que c'est un test de dessin, il n'y a plus de différence. Pourquoi ? Parce que les filles ont intégré ce lieu commun qui dit que les filles sont moins douées pour tout ce qui est maths. Pour finir, je vais citer cet exemple où garçons et filles ont été soumis à un test de calcul mental sous contrôle IRM. Et là, on voit que pour un même résultat, les zones du cerveau qui sont sollicitées, et donc visibles en IRM, sont très variables, non pas selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, mais tout à fait indépendamment. La variabilité est aussi importante chez les garçons que chez les filles, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une variabilité individuelle et non pas une différence entre les genres. D'ailleurs, aujourd'hui, où les femmes dominent avec succès dans beaucoup de formations à des professions traditionnellement considérées comme exclusivement masculines, le problème ne se pose même plus.
C'est clair, ne font que vous tromper.
Alors, il n'y a pas de différence biologique ? D'où nous viennent les différences de comportement entre filles et garçons et les certitudes qu'ils véhiculent ? On va revenir au fait que je signalais au début que, à la naissance, le bébé possède un stock de cellules nerveuses, mais seulement 10% de connexions entre eux. Or, ce sont ces connexions qui nous font nous comporter dans notre environnement, et elles s'établissent tout au long de la croissance du cerveau et de l'individu qui le possède jusqu'à 7 ans. C'est pendant cette période où l'enfant est dépendant des adultes que le cerveau tire des expériences vécues, ce qui va lui permettre des comportements adaptés au milieu dans lequel il vit et composés avec ses propres pulsions. Et ce milieu, c'est la famille, la culture, l'éducation. Fort heureusement, quand même, le cerveau est doué d'une très grande plasticité, c'est-à-dire qu'en permanence, de nouvelles connexions se produisent au gré de nouvelles expériences, et ce, quasiment jusqu'à notre mort. Le cerveau se structure, se modifie, c'est une reconstruction permanente de ce que nous sommes. C'est là l'excellente nouvelle. Rien n'est gravé dans le marbre. Nous pouvons tous et toutes évoluer et faire évoluer autour de nous les mentalités. Au boulot!
Sac de dame ouvert en grand, cheveux coiffés n'importe comment. Pourquoi je m'enfuis, pourquoi je m'en fous? Je marche même pas dans les clous. Pourquoi je m'arrête? Le ciel est lourd, les yeux fixes regardant nulle part. Pourquoi je vais jamais nulle part? Pourquoi je m'arrête? Pourquoi je m'inquiète? Le ciel est lourd, le ciel est lourd. Pourquoi j'ai pas mes lunettes noires dans un très beau fauteuil en cuir? Je serai pas là. Je serai pas là à m'enfuir, mes lunettes noires, ma belle jaguar, et je serai peinard. Dans mon cinéma permanent, du grand, du vrai, cynique qui ment. Pourquoi je reste sur le trottoir? Je vois des bateaux mais je vais nulle part. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi je rentre pas chez moi? Chez moi c'est tout petit et c'est froid. Alors avant d'allumer le gaz, j'allume la télé, mais ça me rase. Pourquoi je suis pas reine d'Angleterre sur mon beau bateau voir la mer? Pourquoi je peux pas boire du thé dans des petites cuillères dorées? Pourquoi je peux pas d'un coup de soupir un verre de blanc? Je garde jamais un boulot parce que je veux tout sur un plateau. Pourquoi, pourquoi? Parce que je suis la reine d'Angleterre qui attend son prince charmant. Parce que je suis la reine si je veux. Et si tu vois passer vraiment que t'as de la merde dans les yeux. Dans des petites cuillères dorées. Parce que moi, d'un coup de soupir.
Eh bien, pouvons-nous être optimistes pour l'avenir ? Oui, je pense, n'est-ce pas ? C'est sur cette note que l'émission se termine. L'illustration musicale était assurée par La Mordue dans Les Lignes de la Main, Mélismel dans Les Brebis, Valérie Leliot dans Mon homme blessé et Adrienne Poli dans Pourquoi ? Et pour terminer, une petite phrase de La Fontaine. L'homme est de glace aux vérités et il est de feu pour le mensonge. Et aussi, la femme est à l'origine du péché. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. L'Ecclésiaste 25-24.
Panixe sigativum.